Radio Okapi.
Le journal grâce à Mzati.
Ce dimanche à Addis Abeba en Éthiopie entre les présidents sud-africains, burundais et congolais sur le déploiement des troupes de la communauté de développement de l'Afrique australe SADC dans l'est de la RDC. Absence des juges dans les tribunaux au Maniema, l'ONG Akiza Binadam en appelle à la responsabilité des autorités compétentes car cette situation plonge la province dans les violations des droits de l'homme, déplore le secrétaire exécutif de l'ONG. Le porte-parole militaire de la MONUSCO à Goma au Nord Kivu est l'invité de ce journal. Le lieutenant-colonel Kedani Mensa nous parle de l'opération Springbok menée dans cette région par la force de la MONUSCO et les forces armées de la RDC. Voilà tout pour le sommaire. À toutes et à tous, bonsoir. Les présidents Cyril Ramaphosa de l'Afrique du Sud, Evariste Ndayishimiye du Burundi et Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo de la RDC ont tenu ce dimanche 18 février à Addis Abeba en Éthiopie une réunion tripartite sur le déploiement des troupes de la communauté de développement de l'Afrique australe SADC dans l'est de la RDC. C'était en marge du 37e sommet ordinaire des chefs d'État et de gouvernement qui se tient dans la capitale éthiopienne. Cette rencontre est organisée quelques heures après le mini-sommet initié par l'Angola sur la situation sécuritaire dans la partie est de la RDC. Les détails avec vous, Blaise Makassi.
Les présidents congolais, sud-africains et burundais ont discuté sur la meilleure coordination des opérations sur terrain. Tous les pays contributeurs des troupes de la SADC, au rang desquels l'Afrique du Sud et le Burundi, restent déterminés, selon la présidence de la RDC, à exécuter leur mandat dans le cadre de la mission confiée à eux dans l'est de la RDC. Bien avant cette tripartite, un mini-sommet initié par le président angolais avait entre autres évoqué le retour à un dialogue constructif et réconciliateur entre la RDC et le Rwanda, la cessation immédiate des hostilités, le retrait immédiat du M23 des zones occupées et le lancement du processus de cantonnement de ces mouvements. Pour rappel, le 17 novembre 2023, le gouvernement congolais avait signé l'accord portant statut de la force de la SADC qui est déployée en République démocratique du Congo. Le gouvernement congolais s'engageait ainsi à mettre à la disposition de cette force les facilités diplomatiques liées à ce type d'intervention. La force de la mission de la communauté de développement de l'Afrique australe en République démocratique du Congo a pour mission de soutenir le gouvernement congolais dans ses efforts pour établir la paix et la sécurité dans l'est de la RDC qui a connu une augmentation des conflits et de l'instabilité posée par la résurgence de groupes armés, principalement le M23.
Merci à vous Blaise Makassi pour toutes ces précisions. Et puis, les jeunes Congolais arrêtés hier à Addis Abeba pour avoir manifesté dans la salle où s'est déroulée la cérémonie d'ouverture du 37e sommet de l'Union africaine ont été libérés le même jour. Ils dénonçaient le silence de la communauté internationale face aux tueries dans la partie est du pays. Néanmoins, ils ont réussi à faire passer leur message auprès des dirigeants africains, déclare Tina Salama, porte-parole du président de la République qui les a rencontrés. Tina Salama revient sur le déroulement des faits au téléphone de Blaise Makassi.
J'étais personnellement dans la salle, dans la plénière Nelson Mandela, et je peux vous assurer que c'était un réel plaisir de voir des jeunes Congolais prendre ce courage, se lever devant autant de chefs d'État et de gouvernement et de toutes les personnalités politiques présentes, on va dire, à ces lieux pour le sommet de l'Union africaine, et dénoncer les massacres, dénoncer ce qui se passe à l'est du pays. Ça, c'était vraiment quelque chose de très courageux de leur part, et on en est vraiment tous fiers. Un peu comme ce que les footballeurs ont fait. Et donc, il y a vraiment cette pression, aussi cet éveil patriotique qui a salué. Alors, ils ont été libérés. Je les ai rencontrés pratiquement tous juste après cela.
Sachez aussi que les États-Unis condamnent fermement l'aggravation des violences dans l'est de la République démocratique du Congo causée par les actions du groupe armé M23 soutenu par les Rwandais et sanctionné par les États-Unis et l'ONU, y compris ses récentes incursions dans la ville de Sac au Nord Kivu. C'est ce que l'on peut retenir d'un communiqué du gouvernement américain parvenu à Radio Okapi ce dimanche 18 février ici à Kinshasa. Paul Matindo.
Selon ce communiqué, cette escalade a accru le risque des millions de personnes déjà exposées à des violations des droits humains, notamment aux déplacements, aux privations et aux attaques. La même source déclare, je cite, « Nous appelons le M23 à cesser immédiatement les hostilités et à se retirer de ses positions actuelles autour des Sake et Goma, conformément au processus de Luanda et de Nairobi. » Fin de citation. Les États-Unis condamnent le soutien du Rwanda au groupe armée M23 et appelle le Rwanda à retirer immédiatement tout le personnel des forces de défense rwandaises de la RDC et à retirer ses systèmes de missiles sol-air qui menacent la vie des civils des Nations Unies et des autres forces de maintien de la paix régionale, acteurs humanitaires et vols commerciaux dans l'est de la RDC, poursuit le même communiqué avant d'ajouter qu'il est essentiel que tous les États respectent la souveraineté et l'intégrité territoriale de chacun et tienne pour responsable tous les acteurs des violations de droits humains commises dans les conflits dans l'est de la RDC. Le gouvernement américain continue de soutenir les efforts diplomatiques régionaux et favorise la désescalade et crée les conditions d'une paix durable en RDC.
Paul Matendo Mayamba et Honor Kivu, la plateforme des associations et propriétaires des motos PAMPROM juge inopportune la marche de ce lundi à Goma. Cette marche est projetée par les mouvements citoyens, groupes de pression et structures des jeunes du Nord Kivu au motif d'inciter le gouvernement congolais à en finir avec la guerre qui perdure, mais aussi encourager les forces armées ainsi que demander aux populations de résister contre l'ennemi. Au vu de la situation sécuritaire qui prévaut dans la ville de Goma et ses environs, le président de cette corporation attire l'attention de tous les motards de ne pas se faire manipuler par les politiciens, plutôt je cite, de faire confiance au FRDC, au Wazalendo, à la MONUSCO et à la SADC qui combattent sur le terrain. Ngoi Kisirani Kambale lance cet appel au micro de Bernardine Diambo.
Nous sommes derrière FRDC, nous sommes derrière la MONUSCO, nous sommes derrière la SADC, nous sommes derrière les Wazalendo, parce qu'ils sont des patriotes de la République démocratique du Congo. À mes amis motards, concernant la manifestation de ce lundi, ne soyez pas intimidés ou trompés par les politiciens. Notre élite, c'est de voir comment obtenir la paix, surtout à l'Est. Mais maintenant, ne soyez pas manipulés encore une fois avec les politiciens. Et j'insiste toujours, on est là pour la paix et non la guerre. Nous avons une couche qui est trop sensible. Ça c'est un. Nous sommes au moins 27 000 motards dans la ville de Goma. Donc, si nous serons manipulés par les politiciens, il y aura beaucoup de dégâts. Mais moi, je parle en tant que garant des motards dans la ville de Goma et j'insiste, ne voulez pas voir l'un de nos amis motards de participer de cette manifestation de ce lundi.
Notons que le maire de Goma, le commissaire supérieur principal Faustin Kapen Kamand, a également interdit cette marche dans un communiqué officiel rendu public vendredi dernier. Il appelle ainsi toute la population à vaquer librement à ses occupations. Rendons-nous au Maniema pour parler de l'absence des juges dans les tribunaux. Longe Hakiza Binadamu Maniema hausse le ton et appelle les autorités compétentes, surtout le Conseil supérieur de la magistrature, à l'affectation des nombres requis des juges au niveau de chaque juridiction de cette province. Son secrétaire exécutif fait savoir que toutes les affaires pénales sont renvoyées sine die, ce qui plonge cette province dans une situation de déni de justice alors que l'accès à la justice fait partie des droits de l'homme. Raphaël Upelele Lokenga dans ses propos recueillis par Florence Kizalunga.
La justice dans notre province est très mal logée ces derniers temps. Nous avons 7 tribunaux de paix. Tous les 7 fonctionnent guère. Nous avons 4 tribunaux de grande instance. Tous les 4 vont bientôt être dans une situation de dysfonctionnement parce qu'il n'y a que les présidents des tribunaux. Et nous avons une seule cour, ça c'est dans le domaine de la justice civile. Nous avons une cour militaire, nous avons aussi un tribunal militaire. Mais dans le côté civil, tribunaux de paix, tribunaux de grande instance ne fonctionnent pas. Ipso facto, la cour aussi sera affectée parce que la cour c'est une juridiction d'appel. Cette situation va impacter négativement la justice parce que c'est elle qui a le monopole de dire les droits, c'est elle qui a le monopole de sanctionner. Ça risque de causer un problème d'érosion de confiance entre la justice et les justiciaires parce que les gens ne seront plus avoir gain de cause devant les juridictions. Alors ils vont recourir à la justice privée ou ils vont aller dans d'autres offices tels qu'ils sont habitués aux auditorats. Nous sommes dans une situation de déni de justice, s'il faut dire ainsi, parce que nous ne savons pas comment accéder à la justice.
Au sud Kivu Pandasta, le personnel judiciaire de l'auditorat militaire des garnisons d'Ouvira vient de bénéficier d'une formation de 10 jours sur les techniques d'investigation numérique. Cette formation s'est clôturée jeudi dernier à Ouvira. Les bénéficiaires sont deux magistrats militaires du parquet, quatre inspecteurs de la police judiciaire ainsi que trois informaticiens de l'auditorat militaire des garnisons d'Ouvira. Ils forment désormais une cellule d'investigation numérique pour mener ces enquêtes judiciaires sur les scènes des crimes. La MONUSCO a appuyé cette formation technique par les biais de la section d'appui à la justice. Fiston Ngoma.
Les groupes armés recourent aux nouvelles technologies pour coordonner, planifier et exécuter leurs attaques et des menaces contre des civils. À Ouvira et Fizitombwe, les cas dénoncés sont légion. Cette formation a permis au personnel de la justice militaire comment faire l'identification des utilisateurs des téléphonies mobiles, la localisation, les bornages, la manipulation des logiciels de renseignement géographique et les dispositions pertinentes du code numérique de la RDC. Major Michel Mandondo est magistrat et auditeur militaire des garnisons d'Ouvira.
À Ouvira, c'est monnaie courante. Au jour le jour, nous recevons des plaintes qui viennent te dire, non, écoutez, j'ai été menacé au téléphone, voilà, j'ai été l'objet d'un chantage. Donc, avec cette formation, nous sommes à ce jour à même de remonter la filière de ces délinquants. Un bon citoyen ne se comporterait pas de la sorte pour extorquer de l'argent à son compatriote de manière illicite en utilisant la technologie que sont notamment le téléphone. Au bénéfice de la vulgarisation notamment de l'ordonnance loi numéro 023/010 du 13 mars 2023 portant code numérique, nous avons un certain nombre d'infractions qui nous permettent de mettre à défaut ces délinquants.
La même formation a été dirigée à Bukavu. Les formateurs de la MONUSCO affirment que cette formation pourrait s'étendre au personnel de la justice civile, la police nationale et les services de sécurité.
Éducation à présent. Les épreuves préliminaires de l'examen d'État édition 2024 ont été lancées hier sur toute l'étendue de la République. Dans la province de la Tchopo, 234 candidats dont 64 filles ont affronté ces tests nationaux dans différents centres disséminés à travers la province éducationnelle EPST 1. Le point avec Jacques Moukonkole.
Les 234 candidats à ces épreuves préliminaires, dont 64 filles, sont répartis dans 5 centres de la province éducationnelle EPST 1, dont le siège est basé à Kisangani. C'est ce qu'a révélé l'inspecteur principal provincial de l'EPST Tchopo 1, Léon Omanjeka. Il s'agit de la ville de Kisangani, Banalia 1, Pafwasende 1, Ubundu et Loa. Avant l'ouverture des malles contenant les items des épreuves en présence de plusieurs personnalités, dont les services de sécurité et les membres du comité provincial de l'EPST, le directeur provincial de l'éducation a tenu à donner quelques précisions relatives à ces épreuves. Alain Mouigny a déclaré que le but poursuivi par ce test national est de contrôler les acquis antérieurs afin de certifier le niveau voulu des candidats pour affronter l'évaluation nationale proprement dite, à savoir la session ordinaire de l'examen d'État. Pour cela, il a appelé les candidats à la maîtrise, à la sérénité et surtout à avoir confiance en leurs propres connaissances. Signalons qu'à Kisangani, ces épreuves se sont déroulées dans la salle d'évaluation de l'Institut de Kisangani. Jacques Moukonkole, Kisangani, Radio Okapi.
Par ailleurs, le Parlement des jeunes de la ville de Butembo dans la province du Nord Kivu plaide pour la baisse des frais de participation à l'examen d'État pour l'année 2024. En effet, le gouverneur du Nord Kivu, Peter Chirimwami, a publié un arrêté fixant les frais de participation aux différentes épreuves de l'examen d'État 2024 pour la province. Ces frais sont évalués à 130 000 francs congolais. Pour le Parlement d'enfants de Butembo, ces frais pour une province qui est en guerre et dont les parents sont souvent en déplacement constituent une charge supplémentaire qui perturbe la quiétude de la population. Robert Mané Nomati, président du Parlement des jeunes de Butembo, le dit à Blaise Makassi.
Nous avons découvert l'arrêté portant fixation des frais à la participation aux examens d'État. Et ça nous a tout d'abord surpris et inquiétés, car passant de 94 000 francs pour l'année passée à 130 000 francs pour cette année. Et pourtant, si on compare les montants, là, les 130 000 francs avec la situation sécuritaire de la province, avec les ADF dans les territoires de Beni, on comprend que c'est quelque chose qui devient peu lourd. Le gouverneur de la province devrait tout simplement partager la misère que traverse sa population, se mettre un peu dans la peau de cette population pour comprendre comment c'est une population qui souffre. Les finalistes à l'école secondaire dans cette province, logiquement, devraient participer à ces examens d'État, en tout cas gratuitement. Il va falloir que cet arrêté soit tout simplement retirer et réadapter pour que tout le monde participe à ces examens d'État.
Sud Kivu, remise officielle jeudi 15 février dernier d'un centre d'apprentissage des métiers pour la réduction des violences communautaires à Baraka Fizi. Désormais, les jeunes de la région ont un lieu où apprendre la maçonnerie, la boulangerie et la mécanique auto. L'ouvrage, financé à hauteur de 92 000 $ américains par la MONUSCO à travers la section DDRRR, a été érigé dans le quartier Kimanga Mwandiga, au sud de la ville de Baraka. Nous en parlons avec Fiston Ngoma.
Cet ouvrage comprend un bâtiment avec 3 salles pour chaque formation et 1 salle abritant la boulangerie. Un autre bâtiment administratif est érigé à côté devant servir de bureau pour les formateurs de l'Institut National de Préparation Professionnelle INPP. Mbele Tamaroni est un ex-combattant démobilisé. La brousse ne m'a servi à rien. Même la femme que j'avais laissée à la maison quand j'étais dans la brousse, je ne l'ai plus retrouvée et s'était remariée à d'autres personnes. C'est ainsi que je me suis rendu compte que la brousse m'a distrait. C'est ici où j'ai appris à préparer le crêpe, le pain et tout ce qui est pâtisserie. Même mes enfants apprécient quand ils mangent ce que je prépare à la maison. Les femmes vulnérables, les jeunes à risque et les ex-combattants sont parmi les 60 bénéficiaires de ces projets. En plus du bâtiment construit et équipé en mobilier, les bénéficiaires ont été formés dans les 3 filières avant de recevoir des kits de réinsertion selon leur formation. Jacques Mbotua, maire de la ville de Baraka.
Ça honore notre ville et aussi ça va contribuer pour le développement de notre ville. Ça va aussi aider à la paix parce que ceux-là qui vont apprendre les métiers ici, ils seront intégrés dans la communauté. Ils ne vont plus rentrer dans la brousse pour semer l'insécurité à la ville de Baraka.
L'INPP assure la formation des jeunes dans ces centres avec l'appui de la jeunesse de Baraka.
Actualité internationale.
Au Tchad, la colère ne faiblit pas après l'augmentation de 40% des prix de l'essence à 730 francs CFA le litre et de 18% pour le gasoil à 800 28 francs CFA le litre. Une grève de 6 jours à compter de mardi 20 février a été votée par les représentants des travailleurs.
L'invité.
C'est le lieutenant-colonel Kedani Mensa, porte-parole militaire de la MONUSCO Goma, au Nord Kivu. Dans cette interview accordée à Radio Okapi, le porte-parole militaire de la MONUSCO à Goma parle de l'opération Springbok au Nord Kivu. Le lieutenant-colonel Kedani Mensa s'entretient avec Bernardine Diambo.
Lieutenant-colonel Kedani Mensa, vous êtes le porte-parole militaire de la MONUSCO Goma. Bonjour.
Bonjour, madame la journaliste.
Que peut-on retenir à la date d'aujourd'hui de l'opération Springbok?
Merci, madame la journaliste. Depuis un certain temps, quelques presses mènent à dessein une campagne de désinformation à l'encontre de la MONUSCO en général et ciblant particulièrement la force. Ces fausses informations alléguant une collaboration entre la MONUSCO et le M23 n'ont d'autre objectif que de semer le doute dans les esprits et d'attiser une haine dont les conséquences pourraient impacter défavorablement la qualité du travail conjoint entre la MONUSCO et le FADC. C'est le lieu de rappeler tous les efforts consentis par les FADC, la MONUSCO et les autres composantes pour sécuriser les localités de Sake et de Goma. En effet, depuis le 29 octobre 2023, les troupes de la MONUSCO déployées dans le cadre de l'opération Springbok occupent des positions défensives couvrant toutes les voies d'approche possible du M23 vers Sake et Goma. Elles opèrent dans un environnement dense impliquant des acteurs que sont les militaires de FARDC, de la mission de la communauté de développement de l'Afrique australe en République démocratique du Congo, SAMIR DSC, les forces burundaises et les Wazalendo. Ces positions défensives tenues conjointement avec ces forces suscitées demeurent toujours intactes. Suite au déploiement du M23 vers Kimoka et Lushangi le 7 février 2024, les positions défensives de la MONUSCO sont passées désormais sous les titres directs du M23. La détérioration de la situation sécuritaire le long de l'axe RN2 a engendré le renforcement des positions avancées de la MONUSCO. Ainsi, la brigade d'intervention a déployé des unités sud-africaines pour renforcer les unités de la MONUSCO déjà déployées. Il est à souligner que le commandant de la force avait précédemment déployé les forces pakistanaises du sud de Kivu dans le cadre de cette opération. Cet effort témoigne de la ferme détermination de la force pour protéger les civils de Goma et de Sake. Le 8 février 2024, le bataillon indien de la MONUSCO a fourni un appui-feu avec ses mortiers de 41 mm lors de la conquête de Sorina 6 et dont le bilan fait état de 2 membres du M23 tués au combat. Le 10 février 2023, lors des affrontements entre les FADC et le M23 à Mouesso, le M23 avait tiré des obus de mortiers en direction de Sake, l'un atterrissant dans la ville de Sake, près d'un centre de santé et l'autre à Mumbabiro. De plus, nos positions défensives vraies près de Kimuka ont fait l'objet de multiples attaques de drones kamikazes. Sur les 5 attaques de drones armés, un drone a été abattu avant qu'il ne puisse blesser qui que ce soit. Lors de ces affrontements, le M23 a subi des pertes importantes qui l'ont empêché d'avancer et les contraindre à se retirer de certaines positions. Ces affrontements ont néanmoins entraîné le déplacement d'environ 2000 personnes de Kashiru, Venzale et Zitem. Pour faire face à ce déplacement massif de la population, les casques bleus de la MONUSCO, en étroite collaboration avec les FARDC, ont établi un couloir sécurisé en Kashiru et Nzale pour faciliter la libre circulation des personnes et de leurs biens. De son passage à Goma, Jean-Pierre Bemba, vice-premier ministre congolais et ministre de la Défense, a mis l'accent sur les opérations menées par la MONUSCO aux côtés des FARDC pour la protection des civils. Il a rassuré la population de l'entière collaboration entre les FARDC et la MONUSCO dans le cadre de l'opération Springbok et a félicité la MONUSCO pour son travail remarquable. Il a également déclaré que la MONUSCO est partenaire du gouvernement de la RDC et travaille en étroite collaboration avec elle. Il a enfin rassuré la population en refutant catégoriquement les rumeurs répandues par le M23 faisant état de ce que la MONUSCO ne collabore pas avec les FARDC. Enfin, il est important de préciser à la population que la force MONUSCO continue de veiller à l'accomplissement de son mandat, celui de la protection de la population civile, avec son partenaire, les FARDC, les inviter à ne pas croire aux rumeurs d'abandon de la ville de Sake.
Alors, comment la MONUSCO apporte-t-elle son assistance aux populations de Mouesso qui sont exposées aux attaques de groupes armés?
Dans le but de remplir son mandat de protection des civils et de permettre aux personnes déplacées, notamment les femmes, les enfants ainsi que les vieillards, les forces de la MONUSCO ont établi un périmètre de sécurité près de sa base à Kichanga, en vue de protéger les 25 000 civils qui cherchent refuge en raison de la détérioration de la situation sécuritaire. Elles ont permis l'acheminement d'aide médicale et l'approvisionnement en eau potable aux déplacés. Enfin, un axe sécurisé a été défini dans la zone générale Mouesso-Kashiru pour permettre aux personnes déplacées de se rendre au camp des déplacés en toute sécurité.
Voilà, lieutenant-colonel Kendani Messa. Je rappelle à nos auditeurs de Radio Kapi que vous êtes les porte-parole militaires de la MONUSCO ici à Goma. Radio Kapi vous remercie.
Je vous remercie, madame la journaliste.
Par ici, nous mettons un terme à ces radio-journal coordonnées par Jacques-Yves Molima et mises en onde par Alain Goy. Vous pouvez les réécouter sur www.radiocapi.net. Merci de rester à l'écoute de la fréquence de la paix. Au revoir.